Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B, qui propose au sommaire aujourd'hui une info du jour avec la suppression de distributeurs automatiques dans le département, interview pour annoncer Cumbia Podel, troisième édition, il y aura de la musique dont une nouveauté, la rediffusion d'un reportage à la Belle Déchette pour annoncer une zone de gratuité ce week-end, et puis recommandation de causerie avec un collectif remonté contre la tech. Bienvenue dans l'AREN. L'info du jour pour commencer, c'est le syndicat CGT FAPT en Ille-et-Vilaine qui défend les postiers et qui alerte sur de gros changements dans les semaines à venir dans les bureaux de poste du département. La Poste prévoirait de supprimer au moins une dizaine de DAB, ces distributeurs automatiques de billets en Ille-et-Vilaine, notamment celui de la Poste de Mordel cette semaine ou encore celui de Verne-sur-Sèche à la fin du mois, le tout sans consultation du personnel et de ses représentants. Conséquence directe, les clients de la banque postale devront donc effectuer leur retrait au guichet avec des horaires d'ouverture limités ou au distributeur d'une autre banque, mais là avec des frais au-delà de 3 retraits par mois. Par ailleurs, les postiers et le syndicat s'interrogent ensemble sur les motivations d'une telle décision. La direction donne en effet des objectifs sur le nombre de cartes bancaires à vendre aux clients, au motif d'inciter à l'utilisation des distributeurs pour ensuite réduire le personnel au guichet. Et puis ces mêmes distributeurs finissent par être supprimés au prétexte d'une rentabilité insuffisante. C'est ce qu'on lit en tout cas sur le communiqué du syndicat CGT FAPT, qui voit dans la suppression de distributeurs une étape de plus vers la fin programmée de certains bureaux de poste. Voilà pour l'info du jour, tout de suite, interview. Élodie Chabot, bonjour.
Hola, hola.
Je vous présente, vous faites partie de l'équipe organisatrice du festival Cumbia Podel, des rencontres artistiques politico-festives autour de l'Amérique latine et qui vont vivre leur troisième édition samedi 16 septembre de midi à minuit. Et ça se passe à Rennes, dans le BAM, le bâtiment à modeler qui est en fait l'ancienne antipode dans le quartier Clonay. La première édition du festival, c'était à l'automne 2020, un événement qui est né de la rencontre entre un Français et un Chilien, d'abord surtout tourné vers la musique et c'est à votre arrivée début 2022 que l'association Cumbia Podel s'est donc créée avec l'idée de faire un peu grossir le projet au-delà de la cumbia et aussi de faire des choses pendant l'année.
Ouais, exactement. L'idée, c'est voilà un festival annuel, Cumbia Podel, comme le nom de l'association, et maintenant de plus en plus tous les ans un autre événement en général en amont du festival. Là, on a eu le bal latino en juin dernier pour annoncer tout ça et créer l'émulation avant le festival.
Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association pour porter cet événement, sachant que, faut le dire, il y a eu un public de 500 personnes à accueillir l'année dernière. C'est un événement voilà, qui est quand même devient assez sérieux. Il y a des bénévoles en plus de cette équipe, donc de 3 organisateurs.
Ouais, c'est ça exactement. On est du coup aujourd'hui une petite dizaine de bénévoles réguliers, fixes. Et pendant la période du festival, voilà, on monte à une cinquantaine de bénévoles pour organiser tout ça. C'est beaucoup de travail et c'est très important d'ailleurs de pouvoir compter sur tous ces bénévoles.
On peut encore vous rejoindre là d'ici l'événement, d'ici la fin de semaine ?
Oui, carrément. On recherche encore une quinzaine de bénévoles. Voilà, s'il y a des personnes intéressées, qu'elles n'hésitent pas à nous écrire sur Facebook, Cumbia Podel. Voilà, il y a encore quelques postes disponibles.
L'appel est lancé. Pour revenir au titre de l'événement et de l'association, Cumbia Podel, alors Podel, c'est le pouvoir. Cumbia, c'est cette musique et cette danse et ce rythme originaire de Colombie. A priori, il y a toujours débat sur l'origine des choses. aujourd'hui, on retrouve cette cumbia dans de nombreux pays d'Amérique latine, au-delà donc de la Colombie.
Ouais, exactement. Bah, du Mexique à l'Argentine, en passant par la Colombie, le Chili, on retrouve la cumbia un peu partout, en sachant que voilà, c'est une musique qui est vraiment un mélange en fait entre les sonorités afro, les rythmes et instruments des populations indigènes d'Amérique, et puis aussi voilà la migration, la colonisation a porté aussi des rythmes un peu différents. Et donc, ça donne voilà, des cuivres, de l'accordéon parfois, des percus plutôt afro. Donc, tout ça, ça donne un super beau mélange dansant, coloré, chaleureux. Et on adore la cumbia.
Avec, on va dire, une diversité de cumbia à travers ces pays qu'on a cités, mais toujours, c'est surtout ce rythme qui revient là.
Ouais.
Est-ce que c'est ça la caractéristique de la cumbia?
Ouais, quand même, effectivement. Et puis, voilà, après, il va y avoir des variantes. La cumbia vichera en Argentine, c'est pas du tout la même que la cumbia rebajada au Mexique. Mais effectivement, il y a toujours ce rythme un peu lancinant. Voilà, et ça, c'est caractéristique, ouais.
Le plus simple, c'est d'en écouter un morceau.
Carrément.
Es invierno y hay cumbiamba, suena bonito estruendo. Es invierno y hay cumbiamba, suenan bonito estruendo.
Ça, c'est la cumbia de la Mixtura qui nous vient de Toulouse et qu'on retrouvera samedi prochain, samedi 16 septembre à Rennes, dans le cadre de l'événement Cumbia Poder. Bah, parlons-en de cette programmation musicale, puisque c'est le cœur de l'événement. 6 propositions musicales, ça a été dur de trouver 6 propositions musicales de cumbia en France, et on déborde un petit peu en Europe.
Bah, c'est toujours un petit défi, mais en fait, on a quand même, voilà, de par nos histoires à chacun dans l'assaut, un bon réseau Amérique latine, et pour l'instant ça a été voilà, plutôt simple. Et puis on est à la 3e édition, et du coup ce qui est bien maintenant, c'est qu'on a de plus en plus de sollicitations en fait, de groupes qui sont en France notamment, qui nous ont repérés, qui viennent d'autres régions et qui aimeraient bien passer à Cumbia Poder. Donc du coup ça va être sûrement de plus en plus facile de créer la prog, et aussi on se rend compte qu'en Europe, au-delà des frontières françaises, il y a aussi des groupes de cumbia, voilà, de personnes d'Amérique latine qui sont installées ailleurs. Et là, cette année, c'est vrai que c'est une nouveauté, un groupe qui vient du Danemark. On est super content de ça.
Qui sera le dernier à jouer sur la scène de Cumbia Poder, 3e édition, à partir de 23h15. Auditeurs, vous en entendrez un morceau à la fin de notre échange. 6 propositions musicales donc, qui vont s'enchaîner sur la scène du bâtiment à modeler à partir de 16h. Des groupes rennais, des groupes d'ailleurs en France, un groupe étranger, on les cite.
Ouais, carrément. Alors du coup, on va commencer avec un petit mix Selecta de Selecta Juanito El Típico. Juanito, c'est un Rennais fin mélomane, fan de vinyle, qui a une collection incroyable de musique du monde, dont la cumbia. Voilà, il est capable de nous faire écouter des rythmes de cumbia japonaise, de cumbia africaine, maghrébine. Bref, c'est super intéressant et surprenant. Ensuite, on va enchaîner avec Koya Braise. Alors, Koya Braise, c'est du coup une asso rennaise de Boliviens qui sont installés depuis déjà de nombreuses années à Rennes et qui ont pour objectif de faire connaître en fait les rythmes autochtones, principalement de la Bolivie, dont la flûte de pan des Andes qui s'appelle le sicu.
On peut tout de suite dire qu'il y aura un atelier pour apprendre à en jouer dans l'après-midi.
Exactement, ce sera à partir de 14h30. Ceux qui veulent venir découvrir et s'initier à la flûte sont les bienvenus. Et en fait, le groupe recrute, cherche à faire grandir en permanence l'équipe de musiciens. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont envie de reconnaître tout ça. Et puis, du coup, on va enchaîner avec la Mixtura, qu'on a entendu tout à l'heure, la Mixtura. Et du coup, c'est un groupe toulousain. composé entre autres de Chiliens qui sont déjà passés quelques fois à Rennes et qu'on adore et donc qui reviennent pour nous samedi. C'est dansant, c'est vraiment la fusion de rythmes populaires avec des touches de rock, de funk, de jazz. Il y a de la salsa, on passe aussi par la timba, beaucoup de cumbia. Donc c'est du mélange et on aime beaucoup ça, cumbia polaire.
De Toulouse, après on va à Bordeaux.
Ouais, à Bordeaux, alors on va recevoir la Orquesta La Milagrosa.
L'orchestre miraculeux.
Ouais, exactement. Alors là, du coup, c'est un gros collectif donc qui nous vient de Bordeaux, qui va reprendre vraiment le folklore des Caraïbes, des cumbias en passant par les poros. Voilà, c'est vraiment c'est très festif, beaucoup de percussions, ça danse, ça chante, on adore. Et puis, toujours encore une fois avec des mélanges de sons contemporains.
Et le dernier groupe, Mambé et Dano Chilango, qui nous viennent du Danemark.
Ouais, exactement. Mambé et Dano Chilango, du coup, c'est la rencontre entre un Mexicain et la Colombienne Claudia Rodriguez. Eux, du coup, on est sur des rythmes un peu plus électro, hip-hop urbain, voilà, du phrasé, mélangé, encore une fois, au rythme tribaux et de cumbia. Donc là, c'est vraiment pour finir en fuego y bailar hasta el final de la noche.
Toutes ces propositions permettront au public de danser jusqu'à presque une heure du matin. Les tarifs, ils vont de 8 à 10 euros pour cette soirée et concert. Et donc là, on a parlé cumbia, mais qui est quand même un prétexte pour votre association aussi pour parler de l'actualité des pays latino-américains. Là, on se parle au lendemain des 50 ans du coup d'état militaire au Chili, qui a valu une table ronde qu'on a aussi annoncée dans cette émission, table ronde organisée au conservatoire du Blône à Rennes. Je suis allée, moi, jeter un coup d'œil à l'onglet actualité du plus célèbre moteur de recherche en ligne. Et si on s'intéresse à l'Amérique latine, il y est question d'une vague de chaleur inédite en plein hiver en Amérique du Sud, d'échecs de la guerre menée contre la drogue, d'un nombre record d'enfants en situation de migration, d'une Argentine qui est en situation économique très délicate, ça fait un moment maintenant, des sujets... peut-être lié un peu médiatiquement, moins que d'autres parties du monde quand même.
Ouais, effectivement, c'est vrai que l'Amérique latine, on en parle, mais voilà, il y a tellement de choses qui s'y passent, on pourrait en parler beaucoup plus, effectivement. Et nous, c'est ce qui nous importe beaucoup aussi pendant le festival, en fait, c'est que voilà, le prétexte de la cumbia, c'est ce qu'on adore, c'est ce qui réunit, mais c'est pas que de la cumbia. On a des débats, on va dire des tables rondes, des échanges. Faut pas avoir peur de venir écouter et partager des idées sur justement l'actualité des différents pays d'Amérique latine. Alors on a en général un volet environnement, un volet féminisme au pluriel, un volet éducation, etc. Là je peux parler des trois débats. En fait on va avoir donc c'est 15h, 16h, 17h, on va parler dans le premier débat du tissage et son importance dans les revendications féministes dans la région d'Abya Yala. Donc Amérique latine sens assez large et focus Colombie. Ensuite à 16h un débat environnement et droits humains en Amérique latine. On va parler de la crise de l'eau et justement tu parlais de la sécheresse tout à l'heure. On va avoir un focus sur le cas de l'Argentine et d'une association qui milite là-bas pour cette cause-là. Et puis à 17h, pour nous c'était très important de parler justement des 50 ans du coup d'État chilien. Donc le troisième débat c'est un témoignage de la résistance au féminin et de l'exil en fait, avec un couple en fait chilien, Gabriela Hermosilla et Manuel Rios, qui du coup vivent à Rennes, ont été exilés au moment du coup d'État et viennent nous parler de leur histoire.
C'est cet événement Cumbia Podal qui vous a fait réaliser qu'il y avait une communauté latino-américaine importante ici à Rennes et puis en Bretagne. On imagine que ça attire un public plus large que des Rennais. Où vous vous en doutiez déjà avant de lancer l'événement?
Je pense qu'il y avait quand même un petit pressentiment qu'il y avait du monde. Faut savoir que au départ, Cumbia Poder, c'est une initiative de Camilo Vázquez et Alexandre Fontaine, qui est chilien, et Alexandre Fontaine, qui est rennais, qu'on salue d'ailleurs, et qui du coup savait bien qu'il y avait cette présence à Rennes de nombreuses personnes issues d'Amérique latine, et mais il n'y avait pas d'événement en fait qui était là pour regrouper ce monde-là et puis générer des échanges en fait et partager les cultures d'Amérique latine. Donc je pense que voilà, ça a été la sensation que ça pouvait être carrément jouable et intéressant, et en fait finalement le premier Cumbia Poder en octobre 2020 a révélé que c'était un événement attendu, enfin voilà, qui était nécessaire peut-être et qui faisait du bien en fait à tout le monde.
Les enfants que vous entendez chanter, on les retrouve dans un film documentaire qui sera projeté samedi 16 septembre dans le cadre du festival Cumbia Poder 3e édition. Un film documentaire qui est sorti en 2020 et réalisé par la documentariste Gaëlle Lefebvre. Il sera projeté samedi à 16h et on y découvre Anna, qui est une éducatrice interculturelle sur l'île de Chiloé au Chili, et qui ne se contente pas d'enseigner la langue mapuche aux enfants qu'elle accompagne. Elle les conduit à réfléchir sur la situation de leur peuple, sur leurs rites, leurs coutumes, mais aussi les problèmes environnementaux et politiques qui les concernent. Ça, ce sera à découvrir samedi. Il y aura tout un moment de projection tout au long de l'après-midi, hein, c'est ça, des projections en continu, aussi de courts-métrages.
Ouais, exactement. On a une sélection. Alors, notre espace de projection s'appelle Ventana, qui est fenêtre en espagnol. Et cette année, le focus de la programmation de cet espace, c'est le Chili. Donc du coup, tous les courts-métrages qui vont être proposés vont porter sur différentes thématiques, et voilà, toujours par des réalisateurs chiliens ou d'ailleurs, mais la thématique, c'est le Chili. On se dit que voilà, on va peut-être les années prochaines faire à chaque fois une thématique de pays différents. Voilà, il y aura toute l'après-midi la possibilité de venir voir des choses dans cet espace, mais à 16h précisément on présente du coup Transmission, suivi d'un échange derrière avec l'équipe du documentaire. Donc voilà, c'est aussi un moment de partage qui va être intéressant.
Un documentaire qui dure environ 30 minutes et à découvrir donc samedi. Ce qu'on n'a pas encore annoncé, c'est qu'il y aura aussi des ateliers. Alors on a parlé de l'atelier de flûte andine, mais je note aussi un atelier de sérigraphie qui seront proposés sur place. Il n'y a pas besoin de réserver et c'est à prix libre. Et trois expositions à découvrir pour le public sur différents thèmes.
Oui, exactement. Alors, on a l'exposition qui s'appelle La rue des rêves de Camilo Fotosur et de Tirso Pérez, qui sont deux expositions de photos en cyanotype, donc une technique assez spécifique qui va être là du coup mise à l'honneur. Et pour ce qui est de La rue des rêves, donc c'est en fait c'est des photographies qui sont voilà plutôt du mouvement de la street photo. Et une compilation d'images voilà, de différents pays, différents contextes, où la rue est vraiment au centre voilà, des clichés qui sont pris. Et puis, la troisième expo, c'est Camila Salamé, Ma mémoire s'évapore. Alors, Camila Salamé, c'est une jeune artiste libano colombienne qui expose cette œuvre en fait pour la première fois en France, qui présente en fait un récit autour de sa propre histoire personnelle, sachant que voilà, ses grands-parents qui provenaient du Liban sont arrivés dans les années 20 en Colombie et n'ont jamais pu retourner dans leur pays d'origine. Et du coup, elle nous parle de l'idée de fragilité associée à celle des identités, de l'exil, voilà, la démarche et aussi cette question de la mémoire humaine dans les processus migratoires et le déracinement aussi. Donc voilà, elle s'attache aussi beaucoup au phénomène d'évaporation. C'est comme ça qu'elle dénomme en fait l'attachement et la dissolution des choses, des questions sur la nature de l'existence et de la conscience de soi. Voilà.
Beaucoup de choses donc à voir, à écouter, à manger aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a un stand de restauration où vous essayez de travailler année après année pour proposer des bonnes choses.
Exactement. Pour nous, c'est aussi important de mettre à l'honneur la gastronomie latino-américaine. On va avoir cette année deux stands. Un stand de cuisine mexicaine avec, pour ceux qui connaissent, des gorditas et des tostadas.
Il y a de la tortilla de maïs.
Ouais.
Non.
De toute façon. Et puis, du côté colombien, un stand d'arepas. Voilà, c'est très connu aussi. Et oui, du coup, c'est aussi l'occasion de goûter des bonnes choses.
Élodie Chabot, vous faites donc partie de l'équipe organisatrice du festival Cumbia Poder, 3e édition. Ce sont des rencontres artistiques politico-festives autour de l'Amérique latine, vous l'aurez compris. Ça se déroule samedi 16 septembre de midi à minuit au BAM, le bâtiment à modeler qui est installé dans le quartier Clonesse, en fait l'ancienne Antipode. Les tarifs pour la soirée concert sont entre 8 et 10 euros. On l'a dit, il y a de la restauration sur place. Pour retrouver la programmation, toutes les infos et pourquoi pas réserver sa place, auditeur, vous pouvez aller faire un tour sur la page Facebook de l'association Cumbia Poder et puis sur la plateforme de financement participatif Hello Asso pour votre ticket pour la soirée. Merci beaucoup.
Merci, muchas gracias et viva la cumbia.
Porque yo decidí quién ser. Soy clandestino, yo elegí mi camino. No acepté que la historia dictara mi destino. Porque he luchado toda una vida para al final entender que yo existo. Yo vivo por el amor a ser fiel a mi arte, que me mantiene conectada, que me ha dado la dicha de poder usar mi palabra. Qué lujo más grande de expresar mi opinión en un mundo donde muere por defender su valor. A mi familia, que no es la sangre que la determina. Gracias yo doy por amarme hasta la cima. Yo soy humana, yo en la tierra nací, la misma tierra que un día me verá morir.
pa bailar. Viaja por el mundo uniendo la humanidad. Cumbia sin fronteras, cumbia sin banderas. Canto de mi alma pa aliviar las penas. Cumbia pa gozar, cumbia pa alegrar. Cumbia que la guerra ya te hace olvidar. Cumbia chichombiana, cumbia mexicana. Cumbia que une las naciones como hermanas. Cumbia universal, ritmo pa bailar. Viaja por el mundo uniendo la humanidad. Cumbia sin fronteras, cumbia sin banderas. Canto de mi alma pa aliviar las penas. Cumbia pa gozar, cumbia pa alegrar. Cumbia que la guerra ya te hace olvidar. Cumbia chichombiana, cumbia mexicana. Cumbia que une las naciones como hermanas.
Mambé et Dano Chilango sur Canal B avec le morceau Cumbia Universal, un titre de l'album Cosmopolites qui est sorti en 2019. Le premier disque de cette formation danoise que vous retrouverez samedi soir sur la scène de Cumbia Poder ici à Rennes. La Rennes, l'émission d'information locale de Canal B, continue tout de suite avec une rediffusion. Alors samedi 16 septembre de 13h à 17h, la Belle Déchette Ressourcerie organise une grande zone de gratuité dans sa boutique La Réserve. Rendez-vous aux deux rues du Pré du Bois pour y dénicher de la vaisselle, des livres, des DVD, des jouets ou encore de la déco. Si la Belle Déchette cherche à alléger un peu ses stocks, c'est en vue de son déménagement au Hall en commun prévu pour le début de l'année 2024. La dernière fois qu'une zone de gratuité a été ouverte, plus de 200 personnes s'étaient déplacées et 1,5 tonnes d'objets avaient trouvé de nouveaux acquéreurs. Je vous propose de réécouter le reportage qui a été réalisé et diffusé fin juin dans cette émission pour parler du projet associatif de la Belle Déchette et de son projet de déménagement. Une campagne de financement participatif est d'ailleurs toujours en cours pour filer un coup de main à l'asso. Rendez-vous pour cela sur la plateforme de financement participatif Hello Asso.
Alors, donc là, on se trouve aux deux rues du Pré du Bois, à la Belle Déchette. Et donc, là, on a aussi la boutique La Réserve, le lieu de stockage qui se trouve juste derrière et le lieu pour accueillir les usagers pour les apports volontaires.
Maëlle Blin, chargée de communication et de sensibilisation à la Belle Déchette.
Julie Oran, directrice de la ressourcerie La Belle Déchette. Alors, la Belle Déchette, elle a pratiquement 6 ans d'activité. On a ouvert la première boutique en septembre 2017. Et il a fallu 2 années de travail avant pour monter et porter le projet sur le territoire. Aujourd'hui, c'est une équipe de 8 salariés, une centaine d'adhérents bénévoles et environ 30-40 bénévoles hyperactifs, très actifs, à nos côtés toutes les semaines.
Son cœur d'activité, c'est le réemploi, la valorisation d'objets qui ont déjà eu une vie avant, on peut le dire comme ça ?
Oui, c'est ça. On se donne comme credo aussi les changements de comportement. On sait que ça prend du temps. Du coup, c'est ouvrir une petite porte et dire qu'on peut faire autrement. Donc déconstruire aussi tous nos modèles de consommation.
La Belle Déchette, du coup, c'est plusieurs espaces. On peut retrouver 2 boutiques. Une boutique située dans le centre, au 24 rue Vanneau, et une boutique située au pôle de la Belle Déchette, 2 rues du Pré du Bois, qui s'appelle La Réserve, et au sein duquel on retrouve aussi le pôle de stockage, le pôle valorisation. et le pôle espace de stockage.
Est-ce qu'on a une idée sur les objets qui atterrissent ici, qui se retrouvent à la fin en boutique, d'où ça vient et des quantités, je sais pas si c'est à l'année, que vous traitez, que vous valorisez?
Ouais. Alors depuis 6 ans, du coup, bon, ça c'est plutôt positif, c'est qu'on voit que les tonnages entrants, donc ce qu'on réceptionne, ils sont en nette augmentation. Et là, on arrive sur l'année 2022, on a à peu près 100 tonnes de gisements. On a des bons taux de réemploi et de valorisation. Donc le réemploi, c'est tout ce qui va être revendu, notamment sur nos espaces de vente, et puis aussi tout ce qu'on donne. Et donc ça, c'est à peu près, on est aux alentours de 86%, je crois, de taux de réemploi. Pour l'année dernière, par exemple, c'est à peu près 100 000 objets qui ont été revendus sur nos espaces de vente. Et donc, du coup, les produits qu'on reçoit, qui sont réemployables, ils viennent des caissons de réemploi en déchetterie. Donc là, on a un conventionnement avec Rennes Métropole pour valoriser ces produits-là. Et puis aussi des usagers qui viennent nous déposer en apport volontaire directement sur le site. Et ensuite, on collecte auprès de professionnels. Et ensuite, on a des conventions aussi. On a une belle convention depuis le départ avec la DG Culture, Ville de Rennes, Rennes Métropole, où on collecte les équipements culturels Ville de Rennes, Rennes Métropole. Donc, par exemple, l'opéra, les champs libres.
Il y a des bennes dédiées à la vaisselle, aux jouets, aux matériaux. On a aussi des bennes pour les livres, pour le textile, la décoration et le petit électroménager. Il y a des objets qu'on ne peut pas collecter puisqu'on ne peut pas les revaloriser par la suite. Par exemple, les objets qui sont ébréchés, cassés, on ne va pas pouvoir les récupérer. Sinon, on a aussi tout ce qui est produits d'hygiène pour des questions de...
Ben, de péremption aussi.
Exactement. Hygiène, mais aussi sécurité, donc les casques de vélo, les sièges auto.
C'est quoi le rôle des bénévoles dans le projet de la Belle Déchette? Plus de 100 bénévoles, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font?
Eh ben, j'ai envie de dire, c'est le socle en fait du projet associatif. Ils sont à toutes les différentes activités de la structure. On n'a pas parlé tout à l'heure, on parlait de l'équipe salariée et puis des bénévoles, mais aussi on a un conseil d'administration qui est représenté par, pour beaucoup, des structures adhérentes, mais la plupart c'est des personnes titre individuel. Donc il y a un vrai engagement derrière. Donc voilà, donc ça peut être sur la stratégie de la structure, on peut retrouver les bénévoles là, mais ça peut être aussi en collecte, en tri, en valorisation, sur les espaces de vente aux côtés des salariés, des temps de sensibilisation. Et puis là, dernièrement, par exemple, alors on va en parler tout à l'heure, notre déménagement, mais du coup, ça se prévoit, c'est un vrai changement. Du coup, on a mené 2 études et à chaque fois, les études, elles sont réalisées au contact des salariés, mais aussi des bénévoles. C'est une structure citoyenne, en fait, la Belle Déchette, à la base. Donc, du coup, un bénévole peut venir ici avec aussi des idées, des propositions. Ensuite, à nous de voir comment on peut les mettre en place.
Pourquoi déménager?
Eh ben, on commence à être à l'étroit ici. En fait, depuis le début, on avait demandé à avoir plus d'espace de vente. Aujourd'hui, il y a une pression foncière sur le territoire de Rennes qui fait que c'est compliqué en fait pour des structures comme nous avec un modèle économique. Hein, voilà, il y a des salariés, hein, donc on est comme une structure, on va dire, traditionnelle, malgré tout de l'économie sociale et solidaire. Donc du coup, l'ensemble des bénéfices est réinjecté. Et voilà, nos modèles sont quand même à prendre en compte parce que fragile, et puis on n'a que 6 ans d'activité. Donc du coup, on avait déjà un besoin d'espace de vente supplémentaire. Et puis ensuite, bah voilà, l'espace de stockage est complètement engorgé. Donc oui, un besoin de déménager.
À la fin de l'année, vous allez prendre la direction des Halles en commun, qui est un nouveau lieu dans le quartier de la Courrouze, qui est lui-même un quartier plutôt neuf, nouvellement accessible avec la ligne B de métro. Peut-être dire ce projet que vous allez rejoindre, les Halles en commun, ce que vous espérez y trouver, parce que ce sont des acteurs qui ont des valeurs un peu proches des vôtres, quoi.
Eh ben, j'ai envie de dire que là, c'est point d'interrogation. On ne sait pas. On a hâte d'arriver là-bas et du coup de commencer à créer des synergies, des partenariats, des rencontres, des échanges et des projets communs. C'est ce qu'on souhaite. On se connaît un petit peu avec certaines structures. J'espère vraiment qu'on va réussir à faire des temps forts aussi, tous ensemble, à donner vie à ce lieu qui est quand même... un historique qui est pas très gay, quoi. Hein. Bon, on était en partenariat avec le ministère de la Défense, alors on va essayer de lui donner une autre touche. Ça peut partir dans toutes les directions. Nous, on est structure de réemploi solidaire. Il y a des troupes de théâtre, hein. Énormément de structures culturelles. Il y a Bâti Récup sur les matériaux du bâtiment, l'équipière qui va être à nos côtés.
Ressourcerie sportive.
Voilà, c'est ça. Je pense à une entrepreneuse, Madeleine Ador, qui... upcycling du textile, Tinechki, qui a Electronica. Enfin, en fait, j'ai envie de dire que les possibles là vont être juste énormes. Et du coup, c'est un peu tout le challenge aussi à venir sur les Halles en commun. Ça va être de mettre en place une gouvernance et du coup que nous, acteurs, on puisse aussi prendre part à ce projet et lui donner sa touche, parce que c'est pas Territoire ou Rennes Métropole qui vont donner ça. Ils vont nous donner une ligne à suivre, mais ensuite donc, à nous de prendre possession de ça. Carrément.
Donc ça, c'est la pièce de stockage au fond.
Voilà, c'est ça, le pôle valorisation. Donc c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Et donc c'est accessible qu'aux bénévoles et adhérents et salariés. Donc là, par exemple, sur notre gauche, on peut trouver l'espace livre. Ici, sur notre droite, on a donc l'espace enfant, avec tous les jouets, les jeux de société, les Lego, les Playmobil, les peluches. Ensuite, on a l'espace vaisselle. En fait, en boutique, on ne peut pas tout stocker, donc c'est en attente d'être remis en circuit via la boutique.
Le déménagement, ça va être le moment de l'ouverture, du lancement d'un atelier partagé. C'est peut-être le moment aussi, on parle de l'atelier en commun avec lequel vous allez fusionner, je sais pas si on dit comme ça.
Alors, on fusionne pas, non. En fait, l'atelier commun, c'est venu aux côtés de la Belle Déchette il y a quelques années.
C'est une association.
C'est une association, ouais, exactement. Association qui a été dissoute en avril dernier et pour qui les membres du conseil d'administration, un des membres fondateurs, du coup, est très présent aux côtés de la Belle Déchette. Et donc, on a décidé que l'objet, en fait, de l'atelier commun, donc l'atelier, intégrait les statuts, du coup, de la Belle Déchette, le modèle économique de la Belle Déchette. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, la Belle Déchette, c'est une ressourcerie, mais c'est aussi des ateliers. Et donc, du coup, on va garder l'ADN de l'atelier commun, qui était... un atelier dédié à l'écologie et au réemploi, où les maîtres mots sont le faire, la transmission, le partage, apprentissage de pair à pair. On va rester sur ces credos-là. Mais je trouve que du coup, sur un seul lieu, trouver une ressourcerie où on a des gisements, des produits, des matériaux, et à côté un atelier pour faire de la création, peindre, aérogommer, de la couture, enfin bon, il y aura un certain nombre d'ateliers. Je trouve que c'est quand même juste génial.
Alors, il y a un financement participatif qui est en cours et qui dure jusqu'à fin juillet. Vous cherchez à récolter 25 000 euros. Pourquoi le choix du financement participatif? Et puis, quelle place il a dans le financement global là, de ce déménagement et du lancement de cet atelier partagé?
On se dit que l'atelier partagé, il va être ouvert à toutes et tous. Et du coup, le fait d'ouvrir une cagnotte participative, c'est aussi... donner l'occasion aux personnes de s'investir, de nous soutenir de toute façon possible, qu'elle soit financière ou autre. Par exemple, le partage de l'information, c'est une forme de soutien.
On a d'autres financements, du coup, c'est quand même un gros projet. Du coup, on a l'Agence régionale de l'environnement, l'ADEME, qui soutient le projet. Ils vont financer à peu près entre 20 et 30% du projet. On a Rennes Métropole et Territoires qui nous ont déjà permis d'envisager cette opportunité. La Belle Déchette va emprunter. Et c'est aussi pour ça, le financement participatif permettra aussi à la Belle Déchette de emprunter moins. Voilà, et puis on a un petit peu d'argent de côté qu'on va injecter avec parcimonie dans le projet.
Vous me dites s'il y a des questions importantes que je n'ai pas posées.
Ouais, mais si c'est important, on en parle dans le financement participatif. Tout à l'heure, je disais qu'on avait mené deux études, dont une étude sur le développement de la Belle Déchette, due à ce déménagement. Et on a travaillé aussi sur l'expérience travail, donc la qualité de vie au travail. Et ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on travaille sur ce sujet-là à la Belle Déchette. Et c'est pas un petit sujet, en fait, parce que aujourd'hui, les métiers du réemploi, c'est des métiers qui sont à risque, pas connue. Il n'y a pas encore de formation, mais il y en a une qui arrive, là, de technicien valoriste du réemploi. Mon label Déchette participait à la mise en place aux côtés de d'autres structures du réemploi bretonne, avec la CRES aussi, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Il y a une reconnaissance de nos métiers l'année dernière, donc on avance petit à petit. Et donc maintenant, ça va être de travailler à la professionnalisation de nos métiers et de faire que ce soit des métiers qu'on protège en fait. Et ça, ça fait vraiment partie du projet de déménagement. C'est-à-dire, on va être sur un lieu plus grand. Oui, on a de plus en plus de gisements, mais c'est aussi pour vraiment travailler sur la qualité de vie au travail. Donc on a réfléchi au process, on aura plus d'espace, mais on aura plus d'outils aussi de manutention. Voilà, donc en fait on a plein de bonnes raisons de déménager.
Ça me fait des ambiances, hein, c'est bon.
Ça, très bien, c'est très bien.
Parfait. Ça me fait mon son de fermeture de reportage. Voilà, parfait. Merci.
Dust Water par The Handsome Family sur Canal B, une nouveauté musicale qui a été sélectionnée par Yann, notre programmateur. C'est sorti le 8 septembre et est retrouvé sur un album, Hollow, qui a été produit par Loose Music. Et c'est le 11e disque pour ce groupe, The Handsome Family, un groupe US de country alternative. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B que vous écoutez sans doute sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. Allez, la suite. Et Et la suite est fin, eh bien, c'est la recommandation du jour, parfois des conseils d'événements à vivre à Rennes et dans sa région, des conseils aussi de lecture ou encore de documentaires. Aujourd'hui, on annonce une soirée débat qui est organisée par un collectif rennais qui s'appelle Antitech Résistance. Ses membres militent pour une réduction du niveau technologique de nos sociétés dans un idéal plus humain et écologique. Mercredi 13 septembre à 20h, rendez-vous au bar de l'Amaryllis, place des Lys, où le collectif Antitech Résistance profitera de la diffusion qui est toujours d'actualité du film Oppenheimer de Christopher Nolan pour parler de l'humanité face à la puissance de la technologie. Ce film, on le rappelle, retrace le parcours de l'inventeur de la première bombe atomique en 1945. La soirée de mercredi, elle commencera par un temps de lecture, puis de discussion autour des thèses du philosophe Gunther Anders, l'un des premiers à avoir exploré ce qu'implique cette arme atomique. Je cite le communiqué. Pourquoi est-il si dur de se représenter la puissance et les conséquences de ce type d'objet? Comment des hommes ont-ils pu consciemment élaborer cette arme sans aucun remords, voire avec fierté? Pourquoi l'homme développe-t-il toujours plus rapidement sa capacité d'anéantir le monde? Élément de réponse mercredi soir à l'Amaryllis à Rennes. Et pour plus d'infos sur ce collectif, il y a un site internet antitechresistance.org.
Vous êtes l'homme qui leur a donné le pouvoir d'autodestruction. Or, le monde n'est pas prêt.
La Rennes, c'est terminé. Une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.